Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être ici au Magic Mirrors. C'est lequel celui-ci ? C'est le Salon Perdu ? Le Salon Perdu, pour cette table ronde sur la fantaisie épique, vraisemblance historique. Alors comme vous le savez tous, la fantaisie, c'est la littérature de l'imaginaire. Elle s'inspire bien souvent de la mythologie, des contes, mais aussi beaucoup de l'histoire. Les grands auteurs que l'on connaît, les uns et les autres, puisent dans cette matière historique. Donc nous allons revenir sur la vraisemblance historique de la fantaisie à travers les sources, les constructions narratives et les limites de l'exercice. Pour cela, nous avons ce plateau qui est, comme vous le savez, d'une exceptionnelle qualité. C'est avec un immense plaisir que je vous présente, ou que je ne présente plus, Fabien Cerutti. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, si je ne me trompe pas, et auteur du cycle romanesque Le bâtard de Kosigan. Donc Kosigan ou Kosigan, ça dépend de quel côté de la Manche.
Comme tous les... Allô ? Oui, c'est bon. comme tout lecteur, moi aussi, j'ai, quand je lis, j'invente les noms des gens qui ne correspondent pas forcément à ceux de l'auteur. Et donc, chacun a son propre nom en tête. Moi, c'est Kosigan, en effet.
D'accord.
Enfin, moi, mon héros, c'est Kosigan.
Le troisième tome, c'est bien Le marteau des sorcières qui est paru en 2017.
Oui, tout à fait. D'accord. Mais pas tout à fait. En fait, il y a le quatrième tome
qui arrive,
qui déjà est là. Ici en avant-première et qui, en réalité, sort le 6 juin.
D'accord, il s'appelle comment ?
Bonne question, le testament d'involution.
D'accord.
C'est un nom mystérieux, donc les gens doivent venir voir pour que je leur explique ce que ça veut dire.
Nous avons Lionel Davout, vous êtes auteur de fantasy et de thriller, qui aime bien varier les plaisirs, j'ai l'impression. On vous doit notamment la trilogie du Léviathan et le passionnant cycle des dieux sauvages, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Estelle Fay, si j'ai bien compris, vous buvez trop de café.
La preuve.
Vous travaillez tard et vous fréquentez des gens pas très fréquentables, c'est ça ?
Non, juste étrange, hein, mais il y a des gens étranges très fréquentables.
Très fréquentables, d'accord. C'est vrai, absolument. En dehors de cela, vous avez scénarisé plusieurs courts-métrages et vous êtes surtout l'auteur de la série La Voix des Oracles.
Et aussi, pour la table ronde qui nous concerne, Fantaisie et Histoire, pour moi, vraiment, le livre qui représente le plus dans ce que j'ai écrit, ce qu'on peut faire avec l'histoire en fantaisie, c'est mon dernier roman adulte en date, Les Seigneurs de Bohène.
Last but not least, Jean-Philippe Jaworski, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes à Nancy. Que ce soit Janua Vera, Gagner la guerre ou le cycle des rois du monde, les rois monde, que je dise pas de bêtises.
Les rois du monde.
Les rois du monde. Vos ouvrages font le délice des lecteurs de fantasy, mais aussi les amateurs de la langue de Molière. En tout cas, la première question qui s'imposerait ici, c'est pourquoi l'histoire avec un grand H est l'un des plus fertiles terreaux de la fantasy. On va commencer par une madame ou mademoiselle, ça dépend comment...
Pourquoi l'histoire ? Parce que déjà, l'histoire est un, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, un merveilleux terrain de jeu, qu'elle nous fournit des décors, des ambiances, des personnages, des enjeux assez extraordinaires. En plus, c'est une super bonne excuse pour aller traîner dans les bibliothèques, acheter beaucoup trop de livres de documentation et, pour mon cas en plus, aller dans des musées et faire des voyages dans les endroits où se passent mes livres. Enfin, dans la mesure de mes moyens qui sont pour l'instant pas extraordinaires, mais on peut se débrouiller. Et surtout, ce que j'aime avec l'histoire, c'est qu'elle nous pousse à sortir de notre carcasse. C'est-à-dire, quand je fais de la documentation, quand je fais des recherches, ce que j'aime, c'est quand mes recherches infirment des préjugés que j'avais pu avoir sur une période, sur un fait historique, sur une manière de réagir d'une société. Et l'histoire, les recherches, la documentation historique me permet de découvrir des pans d'humanité dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Et c'est une des merveilles de ce métier d'auteur, donc certes, je pense que beaucoup ici l'ont compris, peu payé, mais au moins intéressant, c'est qu'on peut toujours continuer à apprendre, on peut toujours continuer à ouvrir de nouvelles cases dans notre cerveau, et on peut toujours continuer à se remettre en cause. Et vraiment, l'histoire nous aide beaucoup pour ça.
Lionel ?
L'histoire est fausse, je pense que je ne vais pas vous... Vous serez probablement d'accord. L'histoire, c'est un récit. L'histoire, c'est une construction.
Et surtout, l'histoire, elle est réinventée comme toute narration, de manière générale. L'histoire, quand vous lisez un livre, vous apportez, évidemment, l'adage dit qu'on écrit que la moitié du livre et que c'est le lecteur qui apporte l'autre moitié. Il se le construit dans son esprit, etc. À travers toute narration, il y a la manière dont on le reçoit. Et en fait, toute narration derrière, il y a une mythogenèse, il y a des mythes qui se construisent autour de cette perception de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le terreau de l'histoire, c'est justement c'est cette construction au-dessus. C'est-à-dire, c'est à travers les faits, ou la manière dont on a pu essayer de les reconstruire du mieux possible, mais c'est toujours en évolution, c'est pour ça que je disais en plaisantant, bien sûr, que l'histoire est fausse, mais toute histoire est fausse, la réalité est fausse, de toute façon.
Nous ne sommes pas là.
Voilà. Et donc, ce mythe, la manière dont en fait ça va venir irriguer l'inconscient collectif, la manière dont ça va venir le faire rêver, pour moi, c'est le terreau le plus au cœur de la fantaisie, en fait, puisque la fantaisie est la fille naturelle du conte et du merveilleux, et donc elle est la fille du mythe, elle va aller taper dans ces images extrêmement fortes, ce que Carl Gustav Jung appelait le lumineux, c'est-à-dire l'expérience du sacré. Mais donc l'expérience du sacré, c'est pas nécessairement du sacré religieux, c'est tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait vivre des choses, tout ce qui vient nous parler un sens très profond. Et c'est pour ça, pour moi, que la fantaisie est une des littératures les plus fortes qui existent. Et l'histoire apporte tous ces courants qui sont vraiment très souterrains, très anciens, c'est juste un matériau mythique trop tentant pour un écrivain pour les jouer avec.
Tout à fait d'accord. Cela dit, oui, l'histoire, ce que j'aime, c'est que certaines références classiques accrochent l'esprit du lecteur, c'est-à-dire qu'elles sont familières au lecteur. Par conséquent, c'est beaucoup plus simple de mettre le lecteur dans une ambiance avec des indices, finalement, des choses, des mots ou des personnages ou des choses qu'il a déjà rencontrées dans sa vie, à l'école ou ici ou là, peu importe, on a une espèce de culture générale qui existe. Et donc, le lecteur se sent familier avec cet univers et tout de suite, ça enrichit l'univers parce qu'une simple ville, Venise, certains sont extrêmement habiles et réussissent à faire en sorte que Ciudala soit largement aussi évocatrice que Venise au final. Mais en tout cas, c'est plus simple d'utiliser des mots connus. Venise va tout de suite évoquer des choses pour les gens qui lisent. Donc ça, c'est le premier point pour moi. C'est évocateur, on se sent en terrain connu et donc ça nous plaît, on a parfois envie d'aller vérifier si tel ou tel élément est juste, si tel ou tel élément est exact, ou creuser un petit peu, parce que ça a évoqué de l'intérêt, ça a appelé un intérêt particulier. Et deuxième chose, moi j'adore l'histoire sur le très très long terme, c'est-à-dire voir évoluer des civilisations, essayer de comprendre pourquoi elles évoluent, pourquoi elles deviennent puissantes, pourquoi elles choisissent telle ou telle voie dans l'histoire, pourquoi finalement elles peuvent disparaître, s'effondrer, se transformer, se modifier. Et j'adore y faire apparaître un schéma directeur, comme s'il y avait une sorte de conscience de l'histoire derrière tout ça. Et voilà, ces évolutions à long terme me plaisent énormément, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'histoire.
Jean-Philippe ?
En ce qui me concerne, moi, le rapport à l'histoire, c'est un rapport pas sérieux du tout. En même temps, c'est un rapport assez sérieux quand même. Ce que j'entends par là, c'est que, en tant que romancier, en fait, j'écris essentiellement pour m'évader et dans l'espoir que mon public s'évade aussi. Et l'histoire, c'est une fabuleuse rampe de lancement pour l'évasion. Pour moi, avoir une bonne connaissance de l'histoire et ensuite l'appliquer finalement à la vie, c'est voyager dans le temps comme on voyage géographiquement. Moi, je voyage dans le temps dans ma ville que je connais assez bien. Il y a des quartiers où je suis au XVIe siècle, il y a des quartiers où je suis au XVIIe siècle, il y a des quartiers où je suis au XVIIIe siècle. Et puis, j'y croise René II, j'y croise... le duc Antoine, j'y croise le duc Stanislas, j'y croise la divine Émilie, j'y croise Voltaire et Saint-Lambert. Et c'est fabuleux, quoi. Ils sont juste au coin de la rue, je ne les vois pas, mais ils sont presque là. Un autre exemple, je travaille beaucoup sur le monde celtique. Quand j'étais étudiant, j'avais fait, en tant que fouilleur bénévole, j'avais participé à une campagne de fouilles sur un oppidum du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'année suivante, comme j'étais un étudiant pas très sérieux et qu'il m'arrivait d'en avoir marre de la prépa et que je séchais, je prenais mon baluchon, je marchais 10 km dans la forêt et j'allais retrouver mon oppidum. Et donc, je faisais 10 km et je revenais de 2500 ans en arrière et je me retrouvais au milieu des Leucs, au cours du premier âge du fer. Et c'est vraiment ce rapport-là. Lionel parlait du rapport au mythe. Hein. Quelque part, je fais un usage irrationnel de l'histoire, c'est-à-dire que me remémorer le récit historique, je l'utilise comme une formule magique, un peu chamanique, qui me permet à moi de me projeter dans le passé. Donc un rapport qui n'a absolument rien d'historique et de scientifique à l'histoire, mais qui permet vraiment de stimuler l'imaginaire pour s'évader et pour créer et pour jouer, hein, puisqu'on parlait de terrain de jeu.
Et quelque chose à ajouter ? Bon ?
Tout à fait d'accord. Disons, les livres, c'est quand même la meilleure machine à voyager dans le temps qu'on a inventée jusqu'à présent. Bon, c'est aussi un peu la seule. Et les livres, ça permet aussi de se plonger non seulement dans un décor historique, comme un film, mais aussi quand on met le lecteur, quand on réussit dans la peau d'un personnage, on a la manière de penser, les sensations, les odeurs, les goûts d'une période. Et mine de rien, on peut sentir le poids d'une épée, on peut sentir la longueur d'un chemin, la longueur d'un voyage. Donc c'est finalement, les livres, c'est l'expérience la plus concrète qu'on peut avoir du passé. Et c'est aussi pour ça, je pense que l'invasion, elle est vraiment totale quand c'est bien fait.
Christopher Priest disait hier en table ronde qu'on fait grand cas de la réalité virtuelle, mais on a déjà des machines vachement puissantes pour ça et qui fonctionnent depuis des siècles, c'est les livres.
Ouais, il a raison.
Et comment travaillez-vous les uns et les autres la matière, justement, quand vous vous lancez sur un ouvrage, vous dites, bon, je vais faire quelque chose sur la Renaissance italienne, si on peut dire ça comme ça, ou sur la chevalerie du 14e, 15e siècle. Comment travaillez-vous, Lionel ou Fabien ?
Je me rappelle toujours de la phrase d'Alexandre Dumas qui disait je fais peut-être du mal à l'histoire, quand on écrit du roman historique en disant je violente peut-être l'histoire, mais j'ai fait de beaux enfants. Alors, c'était pas la même époque, c'était une phrase horrible. Mais il y a quand même un côté l'histoire, elle appartient à tout le monde. Donc, on peut se l'approprier, et j'invite d'ailleurs tout le monde à se l'approprier et aller la creuser. Donc, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse en termes de fantasy, c'est vraiment la surcouche. C'est qu'est-ce que, au-delà de l'histoire, qu'est-ce que ça a évoqué ? Et moi, j'ai une façon de travailler, en tout cas dans les premières phases, qui est très viscérale. C'est parce que j'ai fini par comprendre après quelques années et quelques bouquins qu'en fait, c'est pas moi qui travaille pour de vrai, c'est mon inconscient. Et que en fait, mon boulot consiste au maximum à essayer d'arriver à me mettre en relation avec lui et de m'effacer pour qu'il puisse s'exprimer parce que c'est lui qui sait ce qu'il fait et pas du tout moi. Donc c'est un travail assez humble au final. Et donc le premier truc c'est d'aller chercher ce qui attire et ce qui gratte. En l'occurrence dans Les Dieux Sauvages j'ai voulu parler de Jeanne d'Arc parce que à la base il y avait un paradoxe qui m'avait toujours depuis toujours qui m'avait vraiment toujours frappé, c'est que on a là une jeune fille qui se présente comme étant l'envoyée de Dieu qui dit je vais sauver le monde, qui sauve le monde, et elle finit brûlée par la même église. Ce qui est quand même un petit paradoxe assez savoureux. Alors, quand on étudie le truc, on comprend comment ça a fonctionné, etc. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement puissant. Et voilà, alors c'est Aristote qui dit qu'une histoire, c'est l'actualisation d'une situation riche de potentialité. Alors, c'est quand même une situation clairement riche de potentialité. Et puis, sur la place des femmes dans les sociétés, le lien avec des sociétés, y compris modernes, avec la religion et notamment ce qui va derrière le dogme et l'idée de vérité, qui est censée être unique, c'est des choses qui me travaillent et qui, en vrai, m'énervent beaucoup. Donc, j'avais envie d'aller un petit peu tabasser tous ces trucs-là. Et la manière de travailler, donc c'est vraiment de manière très, très humble et presque puérile, c'est-à-dire d'essayer de simplement me mettre en contact avec moi-même et de me dire, puisque je suis plongé comme tout le monde dans la construction mythique, me dire qu'est-ce que ça éveille chez moi. Qu'est-ce que ça me suscite et quelles sont les images qui me viennent et les directions que j'ai envie d'explorer. Donc là, c'était ça. Et après, à travers les recherches, le grand avantage avec la fantaisie, c'est que l'histoire humaine depuis des millénaires est le plus grand réservoir de situations narratives, y compris extrêmement improbables que l'on puisse trouver. Il y a des trucs qu'on découvre et qu'on se dit, je peux pas mettre ça dans un. Ça s'est vraiment passé. Hein, je peux pas mettre ça dans un roman. Il y a aucun lecteur qui va y croire. C'est juste trop grotesque. Et pourtant, ça s'est passé. La bataille d'Azincourt, par exemple, c'est savoureux. En termes d'échecs monumentaux, stratégiques, ça se pose là. Donc voilà. Et à travers ça, aller chercher encore une fois, se connecter avec ces résonances mythiques et ces situations riches de potentialité en se disant, ah ça, j'ai envie de. C'est notre histoire. Donc j'ai envie d'aller travailler ce matériau-là parce que ça m'évoque derrière quelque chose des trucs dont j'ai envie de parler.
Estelle ?
Il y a deux choses qui résonnent beaucoup pour moi dans ce qu'a dit Lionel. Et c'est d'abord le fait, quand tu parles de ce qui gratte et de ce dont tu as envie de parler, l'histoire, en fait, pour moi, elle permet deux choses. C'est évidemment, je pense, comme beaucoup de fans de fantasy, j'aime quand un roman fait voyager, quand il ouvre d'immenses horizons, quand aussi il y a donc toutes les créatures fabuleuses, les magies, enfin vraiment tout ce qu'on aime en fantasy. Et ça, dans l'histoire et dans aussi, mine de rien, l'histoire des mythologies, les contes, les légendes, les folklores, il y a un énorme réservoir de créatures qui ont toutes en plus un sens, qui sont toutes porteuses de symboles, qui permettent de créer ces voyages extraordinaires. Mais ces voyages, je trouve, sont beaucoup plus touchants et beaucoup plus forts aussi pour un lecteur quand, par ailleurs, ils ont du sens, quand il y a des vrais enjeux humains derrière. Et ces enjeux humains font, en tout cas ceux que je mets dans mes livres, font écho, oui, aussi à ce qui me fait réagir aujourd'hui. Et donc, ce qui me fait réagir aujourd'hui, Bohène, c'est entre autres partie, parce qu'il y a plein d'origines à un roman, mais c'est entre autres partie d'une sorte de sentiment d'impuissance, entre guillemets, que je voyais se développer autour de moi, notamment dans ma génération. De toute manière, l'histoire, elle s'écrit sans nous. De toute manière, on ne peut rien faire. L'histoire, elle est faite par les puissants. L'histoire, elle est faite par les rois, les fils d'eux, les empereurs, les grands groupes financiers, les héritiers des grandes dynasties, etc., etc. Enfin, voilà, dynastie des Bush, Trump qui est un héritier aussi. Bref, nous, on ne peut rien faire. Et d'un autre côté, une de mes passions dans l'histoire, c'est justement l'histoire des peuples, c'est l'histoire des humbles, et c'est l'histoire de tous ceux qui ont fait bouger les choses et qui ont changé le monde, alors qu'ils n'étaient pas nés du bon côté de la barrière. Et Bohène, elle est partie, entre autres, de cette envie-là. Je me suis replongée dans cette histoire des peuples, je me suis replongée dans plein de fins d'empire, dans plein d'histoires de révolution, pour justement comprendre comment même ceux qui n'étaient pas forcément nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ont pu avoir une influence sur le monde à une époque où c'était au moins aussi difficile que maintenant, voire plus. Notamment une question qui revenait parfois en interview sur Bohène, je crois qu'il y a un des intervieweurs qui tourne dans le festival, c'est oui, mais pourquoi autant de vos personnages, ils ont un destin tragique et ils souffrent autant ? Parce que simplement, ce n'est pas des nobles et ils essayent de changer les choses dans un monde Moyen-Âge Renaissance. Donc oui, a priori, il y a des chances que pour beaucoup d'entre eux, ça ne se passe pas super bien. Quoi. Voilà. Et quand même, de nos jours, on prend souvent beaucoup moins de risques en France au XXIe siècle quand on essaye de faire bouger les choses. Donc c'est de ça aussi que j'avais envie de parler. Et juste un dernier truc dans ce qu'a dit Lionel aussi, qui est un des enjeux pour moi de la fantasy historique ou du roman historique, c'est que l'histoire, souvent, nous montre l'importance des préjugés, l'importance des décisions idiotes des hommes qui se laissent mener par leurs émotions. Et quand on voit notamment l'histoire militaire qui, moi, me passionne, parce que justement, c'est l'histoire de comment les hommes ont réfléchi au fil des siècles et comment souvent ils se sont trompés. Quand on voit aussi, y a la bataille de Hattin qui, pareil, est en matière. La bataille de Hattin, en gros, c'est des croisés qui trouvent que pour lutter contre l'armée de Saladin, c'est génial d'aller en plein désert, quasiment sans eau, au milieu, donc dans une passe où tout le monde peut leur tomber dessus. Et ils l'ont vraiment fait. Bohène, c'est aussi, on parle du début des armes à poudre, et quand même, les armes à poudre, quand elles sont arrivées en Europe, il n'y a pas tout le monde qui s'est dit « cool, des armes à poudre, on va les prendre ». Déjà, il y avait peu de gens qui savaient les maîtriser sans se faire exploser leur propre figure. Et en plus, il y avait tout de suite beaucoup de préjugés. Enfin, elles ont quand même, il y a un pape qui a dit qu'il laisse communier ceux qui servaient des armes à poudre. Donc, les condottieri italiens ont mis beaucoup de temps à s'en servir. Et tout ça, c'est des décisions, quand on les met dans des livres ou quand on met l'équivalent dans des livres, parfois, ça paraît presque pas crédible. Et alors après, j'avais une discussion là-dessus avec un autre auteur, il y a deux optiques. Soit on se dit, de toute manière, nos lecteurs, ils sont quelque part un peu trop bêtes pour comprendre, donc on va leur mâcher le travail. On va leur faire que des décisions super crédibles, que des généraux qui quand même sont assez doués, sont assez intelligents. Soit on va essayer de se rapprocher de la vraie histoire, de la vraie vie, parce que justement, oui, les lecteurs peuvent le comprendre, et moi en tant que lectrice, en tout cas, j'aime bien quand justement un roman me remet en question, et que je me dis, mais ça, ça a l'air bizarre quand même. Est-ce que vraiment c'est l'humanité ou pas qui marche comme ça, et que, encore une fois, bah, voilà, que ça fait bouger des choses dans ma tête. Donc j'aime quand un roman me sort de mes certitudes, et c'est aussi ça qu'à ma petite manière, j'essaye d'amener à mes lecteurs, et c'est ça que j'aime dans l'histoire, c'est quand elle nous montre que l'humanité est beaucoup, beaucoup plus complexe que l'idée qu'on peut parfois s'en faire. En plus, c'est plus intéressant. Et parfois, c'est plus drôle.
Absolument. Jean-Philippe ?
Alors, en ce qui concerne mon rapport aux sources, en particulier quand j'écris, je pense qu'il y a trois étapes dans mon rapport aux sources historiques. Il va d'abord y avoir une découverte qui n'est pas forcément liée à l'envie de produire quelque chose. On parlait de, enfin, vous posiez la question sur la Renaissance. Je pense qu'un des grands chocs pour moi, ça a été même pas un ouvrage historique, mais un film adapté d'Alexandre Dumas, La Reine Margot de Patrice Chéreau, qui a été avant tout un grand choc esthétique, en fait, qui était un film historique, mais qui était conçu pour entrer en résonance avec la crise en Yougoslavie, donc qui parlait aussi des années 90, quand il a été tourné. Donc je me suis mis à lire, en fait, hein, pas mal de choses autour du XVIe siècle. Dans une deuxième étape, il y a eu, alors chez moi, l'envie de jouer, bien sûr, de modéliser ça en jeu de rôle. Quand j'ai conçu le projet d'écrire un roman de fantasy Renaissance, alors j'avais déjà en fait lu pas mal de choses sur la Renaissance. Ensuite, il m'a fallu quand même un sujet, un angle. Et au préalable, avant de me lancer dans Gagner la guerre, l'angle que j'avais choisi, c'était de fournir une illustration fantasy ou fantaisiste de la pensée de Nicolas Machiavel. Donc, avant de me lancer dans la composition du roman, j'ai relu Le Prince de Machiavel pour m'imprégner de la pensée machiavélienne. Et puis, j'ai lu, pas l'intégralité, mais j'ai lu quelques passages de son discours sur la première décade de Tite-Live. Qui est alors certes des commentaires sur une œuvre d'un auteur de l'Antiquité, mais tout imprégné de la réflexion politique de Machiavel qui mettait en application à la Renaissance. Après, je me suis lancé dans le roman, et en composant le roman, là, par contre, j'avais des problèmes très ponctuels auxquels je n'avais pas forcément pensé. Il y a l'évocation d'une bataille navale. À quoi ressemble une galère du XIVe, XVe siècle? Des adversaires barbaresques, quel est le type de navire qu'ils peuvent avoir? Ensuite, je mets en scène des peintres. Comment est-ce qu'on organisait un concours pour désigner un peintre qui allait orner un palais? Et là, donc, ponctuellement, en fait, je vais rechercher ensuite des ouvrages spécialisés ou des sources sur Internet qui vont me donner un certain nombre de renseignements que j'exploite ou pas, mais en tout cas qui donnent alors un vernis de vraisemblance. Hein. Je ne suis pas dans la démarche d'un romancier historique, mais quelque chose... Fabien, tu parlais des échos en fait que font naître un certain nombre de références historiques. Le but justement, c'est de donner aux lecteurs comme ça des échos en suscitant certains souvenirs ou certaines images ou certaines fausses représentations historiques d'ailleurs, hein, parce qu'on est rempli de clichés historiques, lui permettre de créer sa propre image, une image qui lui paraisse cohérente, qui est un vernis d'historicité, même si ça reste de la fiction pure et simple.
Très bien.
Oui, je me rapproche beaucoup de ça. En effet, moi, ma vie est imprégnée d'histoire depuis que mon professeur, Monsieur Perceval, ça ne s'invente pas, en cinquième, m'a absolument fasciné avec le Moyen-Âge. Donc, j'ai eu d'excellents professeurs, charismatiques, envoûtants. J'ai adoré leurs cours et donc je les ai encore. Donc les cours de cinquième passons, mais les cours d'université de Colette Beaune sont une vraie merveille et je puise dedans avec joie, bonheur et délectation à chaque fois que je le peux. Mais encore une fois, moi aussi je m'inscris dans cette idée d'atmosphère, de vernis, par exemple pour les combats au Moyen-Âge, notamment les combats de joutes et de tournois que je mets en scène dans le tome 1. À la fois, je puise très fortement dans des choses réelles, qui, des règles ou des organisations qui ont existé. Et en même temps, je m'en affranchis. Et on va avoir des armes qui, par exemple, n'existaient pas vraiment au Moyen-Âge, comme l'épée bâtarde. On va avoir des façons de combattre qui n'étaient pas forcément celles du Moyen-Âge. Notamment, c'est très difficile, je trouve, de décrire les véritables techniques de combat du Moyen-Âge parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on connaît. Donc, je ne les ai pas utilisées. Voilà. Et il y a aussi une raison à ça, ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fin du quatrième tome, j'explique toutes ces apparentes incohérences de manière logique. C'est-à-dire, il peut y avoir une raison pour laquelle j'ai choisi de mettre des incohérences dans mon livre. Mais je ne peux pas évidemment vous les dire. Mais voilà. En tout cas, voilà, je suis imprégné d'histoire et je pense que du coup, mes histoires aussi en sont imprégnées. Notamment, bah, par exemple, je ne sais pas, dans le tome 1, il y a une comtesse qui est très influente, mais c'est une veuve. La place de la veuve au Moyen-Âge n'est pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Elle a vraiment plus de pouvoir, plus d'influence, plus de liberté aussi. Il y a une vision différente de ce genre de personne au Moyen-Âge. Bah, j'intègre ça sans le dire, mais je l'intègre dans ma façon de lui faire faire ses choix. Et il y avait notamment une liberté sexuelle qui était autorisée, on va dire, par rapport aux veuves, qui ne l'était pas du tout vis-à-vis des autres personnes féminines. Voilà, des choses comme ça, je ne sais pas, moi, évidemment les relations sociales, mais aussi les habitats, l'architecture, tout cela entre automatiquement en ligne de compte. Et effectivement, de temps en temps, quand j'ai besoin d'un complément sur un sujet donné, je vais effectivement aller chercher dans des sources mes anciens cours, hein, que j'utilise beaucoup, les livres que j'ai dans ma bibliothèque, sur Internet. Et comme tu disais, souvent on en prend beaucoup et on n'en utilise qu'une petite partie parce qu'on aime tellement ça. Enfin, je ne sais pas, en tout cas moi j'aime tellement ça que en fait, ça m'intéresse et donc je lis tout. En fait, j'en ai pas vraiment besoin, mais ça m'amène à autre chose. Je regarde et voilà. Donc c'est un vrai plaisir de plonger également de replonger dans l'histoire à chaque fois. Et donc voilà un peu le processus de création. Et on utilise une infime partie finalement de ce qu'on trouve, mais c'est évidemment la meilleure partie.
On parle tous de Moyen-Âge depuis tout à l'heure d'une façon ou d'une autre. On sait que beaucoup d'ouvrages de fantasy se réfèrent au Moyen-Âge d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les chevaliers, que ce soit par les mercenaires ou autres. Comment expliquez-vous les uns et les autres cette appétence pour cette période-là bien particulière qui semble plus présente ? En tout cas, c'est l'impression que je peux avoir. Par rapport aux autres, Lionel ?
Moi, je pense que c'est dû très simplement à l'héritage du Seigneur des Anneaux, tout simplement, en fait. Le Seigneur des Anneaux a été un véritable cataclysme éditorial quand il a été publié. Des tas d'éditeurs ont été vraiment pris par surprise par le succès absolument phénoménal qu'a eu le Seigneur des Anneaux. On me dit souvent parfois que la fantasy démarre avec Tolkien, mais c'est pas vrai. Il y a eu des précurseurs, il y a eu d'autres, il y avait des camarades, notamment C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, et des précurseurs, Lord Dunsany, etc. Donc la fantasy naît, disons, tournant du 19e, début du 20e. Et Tolkien est le vrai cristallisateur de toutes ces influences. Et il a le succès qu'on connaît. Et en fait, des tas d'éditeurs sont pris par surprise et font « Ouh la vache, oh mon Dieu, ça marche vachement bien, il nous en faut d'autres ». Et donc, on voit arriver tout un tas d'imitateurs de Tolkien sur le marché pendant très longtemps, au moins 20 ans. Et en fait, l'archétype qu'on appelle maintenant le médiéval fantastique dans le cadre de la fantasy, c'est-à-dire un Moyen-Âge romancé avec potentiellement des elfes, des nains, etc. Hein, c'est le cadre aussi. Et a pris énormément d'ampleur et de poids dans le paysage éditorial. Vient derrière Gary Gygax et ses camarades qui créent Donjons et Dragons avec l'objectif caché, mais en fait de se retrouver la sensation du Seigneur des Anneaux en jeu de rôle. Évidemment, ce n'est pas la terre du milieu, mais l'affiliation est très claire. D&D a le succès qu'on connaît, etc. Donc en fait, l'archétype du médiéval fantastique, pour des raisons qui sont purement éditoriales et de marketing, a déséquilibré, au sens économique, le marché de la fantasy vers l'archétype du médiéval fantastique. Et ça fait Brandon Sanderson, il y a quelques années, donc l'auteur de Fils des Brumes, qui est un des auteurs majeurs de fantasy américaine, avait dit aux Utopiales, il y a quelques années, il y a eu cette phrase intéressante en disant que on commence, et la fantasy s'éloigne de plus en plus, parce que la fantasy, c'est juste le merveilleux pris comme ressort empirique. C'est comme c'est Terry Pratchett disait, la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons. On commence à s'éloigner de ça et à découvrir que dans le merveilleux, on peut aller décrire des tas d'univers différents qui ne sont pas forcément médiévaux fantastiques. Et donc Sanderson avait dit, ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec la fantasy en ce moment, alors en ce moment c'est depuis mettons une vingtaine d'années, c'est que les auteurs actuels se sont nourris des auteurs qui se sont nourris de Tolkien. Donc ça commence, voilà, je parle en termes purement économiques, hein, loin de moi l'idée de je rends à Tolkien ce qui appartient à Tolkien, bien sûr, il est en partie une des raisons, je pense, pour lesquelles on est aussi là. Mais voilà, donc il y a eu cet effet, je pense, de distorsion économique.
Jean-Philippe.
Oui, je rejoins complètement Lionel à propos de l'importance de Tolkien. Je pense que ce qui a vraiment influencé la fantasy vers des sujets médiévaux, c'est le fait que Tolkien lui-même a été influencé par un grand artiste anglais de la fin du 19e siècle qui était William Morris, qui avait de multiples talents, mais qui était entre autres un médiéviste, qui avait publié en particulier des traductions en anglais, des Eddas, sagas, qui ont influencé le jeune Tolkien et qui l'ont amené lui-même à étudier les littératures d'Europe du Nord. L'œuvre de Maurice est très diverse, hein, puisque c'est vraiment aussi un artiste graphiste, un décorateur, mais un écrivain. Il a écrit déjà des romans de fantasy médiévale. Tolkien, donc, par sa formation et sa carrière d'universitaire extrêmement pointue sur les littératures médiévales d'Europe du Nord, sans doute aussi en raison de l'influence de Maurice et d'autres auteurs de fantasy, inscrit aussi son œuvre dans un imaginaire médiéval. Bien que Tolkien dise qu'une partie des civilisations qu'il décrit ont d'autres sources que le Moyen-Âge. Hein. Et effectivement, ensuite, il y a un processus d'imitation qui se père. Je pense aussi qu'il peut y avoir une influence indirecte du romantisme quand même. Il y a eu un goût pour le roman historique au 19e siècle, pour le drame historique au 19e siècle. Et le romantisme du 19e siècle, c'est une contre-culture. C'est une culture qui va contre le classicisme. Donc c'est une culture qui va contre l'académisme et quelque part la fantasy est aussi une contre-culture, hein. Elle a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître et donc comme le Moyen-Âge n'est pas classique, c'est aussi un terrain de jeu privilégié pour se démarquer de la littérature blanche, hein. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles la fantasy a longtemps été associée au Moyen-Âge. Ceci dit, n'oublions pas, comme tu le disais, il y a parmi les créateurs de la fantasy, il y en a qui ont créé de la fantasy qui n'était pas médiévale, à commencer par Robert Howard. Les personnages qu'il crée, Conan, c'est quelqu'un qui est censé vivre dans l'Antiquité. Solomon Kane, c'est un puritain qui vit au XVIe siècle. Howard écrit quand même avant Tolkien, il écrit après Maurice, mais avant Tolkien. Et là, on a une fantasy aux sources de la fantasy actuelle qui n'est pas médiévale.
Juste un mot rapide, je suis content que tu cites le romantisme parce qu'on a un peu tendance parfois à opposer, cloisonner science-fiction et fantasy alors qu'elles ont pour beaucoup les mêmes sources. Le romantisme est une source majeure de Mary Shelley, de Frankenstein, du premier roman de SF de l'histoire et le côté rêve sur la science est une attitude qui est résolument romantique.
Si je peux ajouter un petit truc aux références qui ont été données, c'est que moi-même, mais je pense que je ne suis pas la seule, enfin, j'espère, c'est que j'écris surtout parce que j'ai lu des auteurs français. Et je veux dire, j'adore Tolkien, évidemment, comme je pense beaucoup de gens ici, mais les auteurs qui m'ont influencée, c'est la première génération d'auteurs français à être apparue comme une génération justement en fantasy. En gros, à la fin du XXe siècle, début du XXIe, donc je ne sais pas si tout le monde connaît un peu dans la salle, mais c'est les premiers romans de Mathieu Gabory, de Fabrice Collin, de Calvaud, de Klutzer, et ce n'est pas des fantaisies médiévales. Donc, Chronique des Crépusculaires, il y a beaucoup de références à Richelieu, par exemple. Donc là, les historiens me corrigeront sans doute, mais je pense qu'on est un peu loin du Moyen-Âge, déjà. Les premiers romans de Klutzer, La Voix du Cygne notamment, c'est clairement Renaissance, avec des références à Léonard de Vinci. Après, il s'éloigne même vers des choses qui sont presque 17e dans Petite Mort. Calvaud, il parle de la Commune de Marseille. Donc Fabrice Collin, par exemple, dans Not to Be, a pas mal de références shakespeariennes. Puis aussi, on s'éloigne du Moyen-Âge. Oui, voilà.
Ça
voilà, donc vraiment, quand il y a une première... Je ne dis pas que c'est les premiers auteurs de fantasy française, parce qu'il y en a eu avant, mais c'était les premiers où il y avait un vrai effet de génération, et ils proposent complètement autre chose. Et moi, c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui m'a accroché dans leur fantasy. C'est que c'était quelque chose de différent. Et c'est vraiment dans cette fantasy-là que je me sens de m'inscrire, en fait. Et c'est pour ça que mes romans ne sont pas du médiéval fantastique.
Il y a également une chose qui me semble importante, mais qui est inconsciente, je pense, chez la plupart d'entre nous, c'est une histoire de valeurs. C'est-à-dire qu'avec la Révolution française, il y a un basculement complet des valeurs dominantes de la société. Et les valeurs anciennes sont toujours plaisantes. Quelles sont les valeurs anciennes concrètement du temps de la noblesse, finalement, les valeurs principales, c'est l'hérédité et l'honneur. Ou plus exactement, la valeur principale, c'est l'honneur, et elle se transmet par l'hérédité. Avec le basculement de la Révolution française, on passe à une valeur de la réussite qui se transmet ou qui s'acquiert par le mérite. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Mais ces valeurs anciennes d'honneur, de force, de courage, qui étaient celles de la classe dominante, enfin de l'ordre dominant, de l'ancien ordre dominant, la noblesse. Eh bien, ce sont encore des valeurs plaisantes, ce sont encore des valeurs qui attirent, ce sont encore des valeurs de loyauté, de serment, brisé, trahi. Voilà, on a des lignes de force autour de ça qui sont intéressantes et qui sont dans notre inconscience. Et on ne se dit jamais, je vais lire un roman de telle période parce que y a ces valeurs-là qui me plaisent. C'est en nous et en tout cas, c'est dans la plupart des gens.
Et justement, la valeur ou l'idéal de chevalerie, c'est quelque chose qui rentre dans cette perspective-là ?
Alors, bon, ça, oui et non. C'est-à-dire, oui, bien sûr, et non dans la mesure où, avec notre évolution plus récente, la disparition progressive de la morale dans nos sociétés occidentales, enfin, la disparition, non, mais l'affaiblissement, ou plus exactement, assez difficile, l'assouplissement, voilà, le bon terme de la morale, on a forcément vu évoluer, on en a parlé dans d'autres tables rondes, la place du héros qui devient petit à petit plus sombre, plus réaliste, plus avec ses parts d'ombre, voire beaucoup d'ombre, voire énormément d'ombre, voire que de l'ombre. Forcément, mais qui travaille sur l'humain finalement, c'est-à-dire que avec ses différentes parts. Et d'ailleurs, là encore, le monde ancien est attirant, et on se le cache, mais il est attirant aussi parce qu'il est porteur de violence, il est porteur de choses sombres, il est porteur, alors évidemment parfois de manière caricaturale, parce que par exemple la guerre au Moyen-Âge est beaucoup moins, enfin jusqu'à Zintecourt, justement jusqu'en 1415, où on commence à se battre pour les États, pour les nations, alors là on commence à tuer vraiment beaucoup, mais sinon pendant toute une partie du Moyen-Âge, disons du 10e, 11e jusqu'au 14e, 15e, la guerre est codifiée et finalement on fait des prisonniers. En tout cas chez les nobles. Et on les échange contre des rançons. On a vu des chevaliers perdre complètement toute leur terre, leur territoire, leur château, parce que c'était parfois un peu presque comme le casino. C'est-à-dire qu'on allait... On perdait, on donnait sa parole d'honneur qu'on paierait, et on pouvait continuer à aller se battre contre quelqu'un à côté. Mais on pouvait reperdre. Du coup, on était obligé de promettre une rançon, et on pouvait continuer comme ça. Donc, c'était finalement moins mortel que les guerres à beaucoup d'autres périodes de l'histoire. En revanche, le monde lui-même est plus violent. La société est plus violente. La vie quotidienne est plus rude, plus violente. Oui, ça, c'est vrai. Et donc, du coup, ça, c'est un sentiment qu'on a, et on cherche peut-être aussi... Ces éléments-là que l'on se cache à soi-même.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que le Moyen-Âge, en fait, ça désinhibe les scrupules de l'écrivain et souvent du lecteur. Hein. En ce sens que la violence est admise et légitime si elle est codifiée. Alors, c'est pas gênant. Alors, on le voit très très bien dans les romans de chevalerie. Hein. Tu parlais donc de la courtoisie entre nobles. Alors, c'est vrai, entre nobles, on ne se tue pas. Enfin, ou parfois par accident. Hein. Bon, mais c'est malheureux. Hein. En revanche, c'est pas gênant chez les vilains. Hein. Je fais lire le Conte du Graal à mes élèves. Et on a le modèle de la courtoisie qui est Gauvin, hein, qui ne tue pas, sauf quand il est vraiment forcé, qui est toujours courtois avec les dames, avec ses adversaires, qui négocie. Il y a l'épisode d'Escavalon où il est en train de compter fleurettes à la fille d'une de ses victimes. Il s'en rend compte un peu tard. Toute la ville entre en émeute pour assaillir l'odieux chevalier qui manque d'honneur. On voit Gauvin massacrer les bourgeois sans aucun scrupule. Et en plus, le narrateur, ça le fait clairement rire parce que il présente ça sur le ton de la satire, quoi. Hein. C'est bien fait pour eux, ces bourgeois qui ont été s'attaquer à Gauvin. Ce qui est révélateur de la mentalité du romancier médiéval, pour lequel la violence est légitime et on peut tuer. C'est pas très gênant moralement quand on respecte un certain nombre de codes. Et je pense qu'effectivement, pour nous, écrivains et nous, lecteurs, en plus, c'est à distance, le Moyen-Âge, c'est loin, donc ça ne nous concerne plus, nous. Donc c'est facile de mettre en scène des choses épouvantables et sans scrupules. Voilà, voilà, c'est drôle, c'est amusant, quoi. c'est cathartique. C'est cathartique. Hein.
Et la figure donc du mercenaire dans tout ça ?
Alors la figure du mercenaire, elle est intéressante parce que la figure du mercenaire, en fait, c'est celle de quelqu'un qui est un professionnel mais qui ne respecte plus un code moral. C'est un professionnel qui travaille pour l'argent. Et ce qui est intéressant, alors moi, ce qui m'intéresse, même si je n'ai pas énormément mis en scène, mais ça va être de mettre en scène dans un contexte médiéval ou renaissance, quelque chose qu'on voyait beaucoup au Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle et qu'on a vu sans arrêt à la Renaissance, c'est la confrontation entre le chevalier ou l'aristocrate qui a un code d'honneur et le mercenaire qui est là pour gagner de l'argent. Le mercenaire, en fait, il est beaucoup plus proche de nous, tout simplement à cause de ses valeurs. C'est un professionnel. Comme tu le disais, nos valeurs à nous, c'est la réussite par le mérite. Le mercenaire, c'est celui qui fait carrière qui a des compétences et qui les met en application. Et là, il y a un choc assez ancien. Tout à l'heure, on parlait de grandes batailles perdues. Hein. La bataille d'Azincourt, quand même, c'est une bataille livrée par la noblesse française dans un équipage magnifique avec un code de chevalerie courtois à une armée en fait formée de paysans anglais pour l'essentiel qui n'ont absolument pas ce code, qui sont là pour survivre et qui par conséquent vont massacrer les prisonniers nobles. Sur ordre du roi, quand même. On a d'autres exemples comme ça de ce choc entre. Alors, en ce qui concerne la Renaissance, ce choc entre la culture du mercenaire et la culture aristocratique, une précaution que fait tout général de la Renaissance quand il organise son plan de bataille, c'est d'alterner un régiment conduit par des locaux et des nobles. Un régiment de mercenaires. Surtout, on ne met jamais les régiments de mercenaires ensemble parce qu'ils sont absolument incontrôlables. Donc, on va les encadrer avec des troupes régulières pour essayer de... Et malgré tout, hein, y a des retournements de situation. Et je trouve que... Alors, là, c'est une piste que je vais explorer. Dans certaines nouvelles, j'ai commencé... Alors, bien sûr, j'ai consacré un roman à un mercenaire, un ancien mercenaire, un tueur à gages, il est mercenaire. Mais le prochain roman que j'écrirai dans le Vieux Royaume, qui s'intitulera Le Chevalier aux épines, prend pour personnage central un aristocrate qui risque d'être confronté justement à la guerre face à des mercenaires avec un code donc complètement différent.
Juste enfin, là, il y avait de la polémique, j'ai cru comprendre, à la table ronde précédente, donc je propose qu'on en réintroduise un peu ici, quand même. Parce que en tout cas, dans la fantasy qui m'intéresse, je m'inscris assez en faux avec ce qu'a dit Fabien, même si j'adore ses bouquins. Mais justement, pour moi, les valeurs anciennes dans la fantasy sont au contraire ce qui est presque un repoussoir dans certaines formes du genre. C'est-à-dire que vraiment, l'Ancien Ordre ne me parle absolument pas, j'ai une grosse fibre révolutionnaire. Et je trouve même que par moments, auprès du public qui ne connaît pas le genre, une certaine référence à l'Hérédité, qui est beaucoup trop présente quand même dans la fantaisie anglo-saxonne encore de nos jours, peut faire facilement passer la fantaisie pour réactionnaire. Et je comprends tout à fait cette réaction de la part de gens qui connaissent mal le genre. On la retrouve souvent dans la presse généraliste. Évidemment, c'est une simplification, mais c'est une simplification qu'une partie du genre rend possible. En mettant que des élus de la prophétie, en mettant donc des nobles qui vont hériter du trône d'eux, ou le petit héros tout humble, en fait, c'est un prince caché, ou ce genre de choses. Il y a vraiment, dans une certaine fantaisie, une fascination pour l'hérédité, dont on ferait bien, je pense, qu'on ferait bien de questionner un peu plus, en tout cas, de nos jours. Et les fantaisies qui m'intéressent, ce sont celles qui, justement, vont questionner cette hérédité-là. Et en fait, ça remonte aussi aux sources de la fantaisie, ce questionnement, déjà. Parce que Le Seigneur des Anneaux, pour revenir à lui. Mais oui, même si ce n'est pas le premier auteur, enfin voilà, Lionel a tout très bien expliqué. Ce qui me touche dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que finalement, bien sûr, il y a Aragorn, donc il descendant de toute cette grande lignée avec son épée brisée, etc. Bien sûr, il y a les grandes familles elfes. Mais finalement, ceux qui vont arriver à faire fondre l'anneau, c'est les petits hobbits. C'est les gens que personne n'attendait, qui ne vont pas être des grands guerriers, qui ne vont pas prendre des grandes épées, qui ne vont pas faire des grands sortilèges. Et c'est grâce à eux que la Terre du Milieu peut survivre. Et pour moi, c'est ça qui touche dans Le Seigneur des Anneaux. C'est ça qui fait que c'est universel. Et c'est ça qui fait aussi que c'est l'acte de naissance de la fantaisie. Et un passage qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui pour moi est aussi l'un de ceux qui m'ont le plus intéressé dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quand Aragorn va chercher l'armée des morts, parce qu'il a besoin de cette armée des morts pour gagner la bataille. Et finalement, cette armée des morts, elle représente quoi ? Elle représente les serments que ses ancêtres n'ont pas tenus. C'est-à-dire celui qui a la lignée la plus glorieuse, qui est Aragorn, et qui doit assumer cet héritage, il doit surtout assumer les fautes de ses ancêtres pour pouvoir gagner la bataille. Donc ça remet complètement en cause l'idée qu'un héritage noble, c'est quelque chose de positif, etc. Et ça, on a tendance à l'oublier maintenant quand on parle de la fantaisie anglo-saxonne, et pourtant c'est une de ces raisons très importantes. Et l'autre côté polémique, à l'étant que j'y suis, je polémique à mort, c'est que pour moi encore, ce qui m'intéresse dans le rapport à la violence en fantaisie, c'est quand ça implique le lecteur. Quand au contraire, ce n'est pas juste du fun. Pourtant, par ailleurs, j'aime beaucoup Ash vs Evil Dead, qui est une super série gorasse, je conseille à tout le monde. Mais en fantaisie, ce que je cherche, c'est oui, ça à être impliqué et ça à pas être neutre par rapport à la violence. C'est vraiment à ressentir que ça a des conséquences et que ces conséquences, elles sont vraiment désastreuses. C'est être mal à l'aise, c'est à le sentir dans mes tripes et c'est pareil, c'est ça aussi que j'essaie de transmettre à mes lecteurs. En étant plus soft quand je fais de la jeunesse, promis.
Moi, pour rebondir, on a travaillé sur le même ouvrage universitaire autour du genre et en écrivant des articles là-dessus, je me disais, pour prolonger ce que vous disiez tous les deux, j'ai l'impression que toute la dialectique du genre, en fait, toute l'essence de la fantaisie, elle se situe sur une espèce d'équilibre et de jeu qui est en fait extrêmement complexe et profond entre la modernité du lecteur, pas moderne au sens époque moderne, mais je veux dire la contemporanéité du lecteur avec sa sensibilité, donc qui est au minimum 20e siècle et maintenant 21e, qui porte un regard et un jeu sur des racines extrêmement profondes de la fantaisie, qui remonte au conte, on retrouve justement du coup ces modèles d'hérédité, et sur justement cette espèce de rapport et de dialectique entre la contemporanéité plongeant dans des archétypes hyper anciens. Et derrière ça, il y a aussi donc il y a la contemporanéité de notre littérature induit une responsabilité de la parole. Ce que tu disais avec la violence, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la violence aujourd'hui dans un roman, comme le rappelait Jean-Philippe, de la même manière, ou en tout cas, elle n'est pas considérée de la même façon, elle pose toujours une interrogation. Qu'il n'y avait simplement pas avant, parce que c'était comme ça et c'était rigolo. Si vous avez l'occasion, c'est toujours intéressant de se plonger dans l'humour d'anciennes civilisations. C'est un prisme assez fascinant sur la manière dont ça fonctionne, dont ces états d'esprit fonctionnent. L'autre truc que je voudrais dire, justement, juste un peu pour nuancer là-dessus, sur ce que tu disais, Estelle, puisque tu voulais rajouter du débat, je vais être un peu pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut aussi. C'est très bien de se questionner. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, sur la questionner par rapport à notre contemporanéité, ce qui est venu avant et les archétypes qui viennent avant et qui nécessairement nous irriguent. Mais à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas je pense que tu seras d'accord avec moi malgré tout, donc ma tentative de débat va tomber à la flotte, mais je pense qu'il ne faut pas nier aussi...
Tout est truqué.
Je pense qu'il ne faut pas nier aussi la valeur fantasmatique de la littérature. Le côté fantasme, un fantasme par nécessité, en général, c'est justement fait pour ne pas être pour ne pas être exécuté, pour ne pas être accompli. Avoir des anti-héros, comme chez Jean-Philippe avait gagné la guerre, avec des tas de modèles, avoir des choses un peu violentes, un peu dures, de temps en temps, il y a effectivement un plaisir de jouissance un peu sale en se disant oh, y a un mec qui massacre tout le monde, c'est quand même un peu rigolo. Mais ça reste de l'ordre du fantasmatique. Et c'est normal, ça fait partie du rôle de la narration, de temps en temps, de nous faire vivre un peu par procuration des trucs un petit peu moches, mais c'est rigolo. Et tout cela est inoffensif, parce que cela reste de la fiction. Et y a tout, je trouve,
Ne faites pas ça chez vous.
Voilà, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Mais il y a tout un discours là aussi, une dialectique qui, je pense, est intéressante à amener à la conscience dans nos littératures et dans notre époque, c'est que on raconte aussi des trucs pour se faire peur. Ça ne veut pas dire que qu'on va le faire ou qu'on le préconise, etc. Donc c'est toute la caractéristique de notre époque où le lien entre fiction, réalité, passage à l'acte, fantasme est un petit peu brouillé.
Alors il nous reste 2 minutes.
On voit bien qu'on m'empêche de parler. Je trouve que c'était dur.
C'est la guerre.
Non, donc, alors d'abord les mercenaires. N'oublions pas la question initiale, oserais-je dire. Alors donc, oui, sinon pour les valeurs, je parlais évidemment des valeurs de l'histoire qui étaient en filigrane derrière. Évidemment, ces valeurs sont, Estelle, complètement brisées, déformées en tous sens par de nombreux romans de fantasy. Et le genre, lui, va déformer et modifier ces valeurs, souvent positivement et souvent humainement, c'est vrai. En revanche, jamais complètement dans Le Seigneur des Anneaux, les petites gens, on reçoit, à part avec les elfes qui donnent un peu cet esprit-là, mais on n'a pas ces couches de la société qui existaient à l'époque médiévale, qui étaient vraiment très marquées, comme on disait tout à l'heure, avec d'abord une incompréhension, puis un mépris, puis voilà quoi. Ensuite, pour revenir aux mercenaires, au Moyen-Âge, l'argent c'est sale. Hein, c'est sale. Cependant, alors dans ce cas-là, on peut se demander, mais pourquoi y a-t-il eu des mercenaires? Pour une raison simple, c'est que, par contre, l'armée n'existait pas. L'armée de métier, c'est à la fin de la guerre de 100 ans qu'elle commence à apparaître. Hein. Donc avant ça, on a Lost. Lost, eh bien, ce sont des nobles, des chevaliers, des petits chevaliers qui prêtent serment auprès de chevaliers plus puissants, vous savez, tout ça, le vassal, le suzerain, etc. etc. Et donc tout ce système de serment diffusé dans toute la société fait que ces chevaliers, ces nobles, doivent à leur seigneur un certain nombre de jours où le seigneur peut leur demander de venir avec lui pour combattre. Mais ce n'est pas perpétuel, je ne me souviens plus le chiffre exact, mais plusieurs jours par an, combien ? 40 jours par an, ils peuvent combattre pour leur seigneur. Alors le seigneur essaye de faire tourner, il fait venir un peu les uns au début, puis les autres, puis voilà. Et donc il ne faut justement pas trop tuer au début, parce qu'il faut pouvoir faire tourner ce système. Et l'armée de métier apparaît, et à cette époque-là, on complète justement, on a besoin de compléter. Donc pour compléter, on va faire appel à des combattants payés. Les mercenaires génois qui sont arbalétriers, par exemple, spécialisés un petit peu. D'ailleurs, c'est une arme de destruction massive, l'arbalète au Moyen-Âge. Le pape l'a interdit, d'ailleurs, à un moment, parce que ça transperce les armures tellement c'est puissant et donc que c'est mal.
Et que n'importe qui peut s'en servir, et c'est quand même déplaisant.
Ça serait quand même scandaleux que... voilà. En tout cas, donc on a ces compagnies de mercenaires qui se forment au début. Le mercenaire, au début, n'est pas un solitaire. C'est un membre d'une armée qui est payée. Au lieu d'être une armée honorable, elle reçoit de l'argent. Elle est donc beaucoup moins honorable, mais elle est efficace. Elle est efficace, du coup. Et ça va évoluer effectivement avec la fin du Moyen-Âge, et c'est le basculement vers la période moderne avec des nobles qui sont aussi de plus en plus nombreux, parce qu'avec l'amélioration des niveaux de vie, il y a de plus en plus de démographie, ce qui signifie que des nobles, il y en a de plus en plus, et donc il y a des nobles qui n'ont pas de terre, il faut bien les occuper, et on va les récupérer en tant à demeure chez les grands seigneurs. Ce sont des chevaliers, ça apparaît surtout en Angleterre au début, des retainers. Et ces retainers sont des chevaliers payés pour être avec... Leur fief, c'est de l'argent. Le fief, au début, c'était de la terre. Le fief peut être parfois de l'argent dans ces cas-là. Et eux aussi peuvent être parfois un peu considérés comme des mercenaires, sans l'être, puisqu'ils ont aussi prêté serment. Et voilà, donc voilà, juste pour revenir sur les mercenaires.
Bon, on va laisser la place au
jamais,
prochain,
on ne laisse la
prochaine
place à
table
personne,
ronde.
On reste là.
En tout cas, merci beaucoup à vous quatre pour
voilà,
cette table ronde.
Merci.
Merci à vous, bien évidemment.